Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, un nouvel épisode, une nouvelle édition de cette balado techno avec moi-même Alain McKenna et mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal.
Bonjour Alain McKenna, comment allez-vous?
Oh, je vais très bien, merci. Je t'avouerai que j'ai un petit peu mal dans le dos. Trop pelleté dans les derniers jours.
Ce podcast debout, c'est bon pour toi. Je lisais un truc comme quoi ça diminuait de 54% travailler debout, genre les douleurs dans le dos après cette semaine, quelque chose comme ça. Littéralement, là, je travaillais sur un article là-dessus, sur le confort au travail. Est-ce qu'on commence par saluer nos partenaires?
Ben, certainement, saluons.
TELUS, Planob, Jura, Plan Hub, qui fait des forfaits de téléphone pas cher, je tiens un coup d'œil. Jura, la machine à café Ubit, qui permet de faire le café de son choix. Un café, c'est une machine entièrement automatique. À la pression d'un seul bouton, vous obtenez la boisson caféinée ou pas de votre choix, avec du café en grain ou moulu selon votre choix, avec du lait ou non. Simplement avec un seul bouton et un affichage avec un écran qui permet de choisir sa boisson, de la personnaliser avec des ajustements précis. Le nettoyage est super facile, c'est une machine suisse, alors les Suisses aiment la propriété, avec des enzymes, un filtre qui élimine l'accumulation de tartre. Et je viens de publier un billet sur mon site qui n'est pas une demande du partenaire, je l'ai fait de bon cœur, ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise la machine avec beaucoup d'amour. Jetez un coup d'œil sur pascalforget.com, vous avez des notes, des détails d'utilisation sur la Jura 8. Est-ce que c'est fait pour vous? C'est pas une machine donnée, mais ça procure énormément de bonheur.
Je veux dire qu'il y a des marques de moins chères, mais qui sont aussi de moins bonne qualité. Donc, il faut faire le bon choix quand on achète une machine.
C'est pas mal la Cadillac des machines à café. Ouais. Il y a la Rolls-Royce, il y a des machines encore plus sophistiquées, mais dans le truc abordable, mais qui est un petit peu haut de gamme, c'est bien. Cette semaine, j'ai fait quelque chose de très drôle. Je suis allé voir les relationnistes de Facebook pour faire l'essai du Meta Quest Pro. Et c'est pas des jokes. Ils venaient de se procurer une machine Jura, la machine de travail WE8. Donc, j'ai pu leur montrer comment ça fonctionnait. Eux, ils m'ont montré comment fonctionnait la Meta Quest Pro. J'avais eu très, très brièvement à Whistler l'occasion d'avoir le casque sur la tête pendant quelques secondes. Là, j'ai pu l'essayer pendant plus d'une heure. Super le fun, belle expérience. La chose à remarquer qui est très drôle, c'est quand tu mets le casque, quand je suis arrivé, il y avait des petits bonbons à la au gingembre sur la table. Parce que certaines personnes qui font l'essai du casque ont des petites nausées au début, c'est pas normal.
Ah oui, ok. Ah mon Dieu.
Oh, oui, tout à fait. Ça m'a pris du temps pour comprendre. J'ai dit, voyons, il y a des bonbons sur la table, ils sont bien gentils. Petits bonbons gingembre. Ceci étant dit, le Meta Quest Pro, c'est vraiment une coche au-dessus du Quest 2.
Ouais, c'est ce que j'allais demander. J'imagine qu'on s'y retrouve parce que ça doit être familier, mais c'est comment c'est différent, en fait?
Écoute, la qualité de l'image est bien meilleure. Ce qui est fantastique, puis c'est la première impression que j'en avais eue, quand je l'ai réessayé, tu le mets sur ta tête et tout de suite, je voyais bien. La Quest 2 est un peu capricieuse sur le positionnement de son casque sur la tête. L'autre chose qui est particulière, c'est que c'est un casque conçu pour la réalité augmentée, pas seulement pour la réalité virtuelle. Donc, tu as des caméras qui permettent de voir ton environnement. Tu peux voir en pass-through, tu peux voir au travers de tes lunettes ce qui t'entoure. Donc, la table, le bureau, les chaises, les autres personnes dans la pièce, tu les vois bien. Mais tu peux ajouter des éléments de réalité virtuelle dedans. Donc, ça, c'est très, très chouette comme concept. Je pense que la résolution est 4 fois meilleure que celle du Quest 2. Mais simplement, en l'utilisant en mode réalité virtuelle, donc sans voir son environnement, j'ai trouvé ça assez fantastique. J'ai fait l'essai de l'application qui permet de faire des réunions virtuelles. Et j'avais la personne de Facebook qui était en face de moi dans la pièce, mais dans la pièce virtuelle, elle était à côté de moi et on pouvait regarder ensemble un tableau blanc. sur lesquels on pouvait dessiner en couleur. Donc, on pouvait se lever avec son espèce de contrôleur. On pouvait dessiner sur le tableau. Tu avais un retour haptique qui était particulièrement drôle parce qu'on avait vraiment l'impression de frotter une surface. Ah bon? C'était un peu délicat. Oui, il fallait vraiment appuyer sur la surface virtuelle pour ressentir le contrôleur vibrer. Et puis, la personne s'est déplacée à côté de moi. Physiquement, il n'avait pas bougé. Il aurait pu être n'importe où dans le monde. Mm-hmm. Mais elle s'est retrouvée à côté de moi et on pouvait côte à côte regarder un écran tout à fait virtuel dans les lunettes. T'as un mode qui te permet de travailler. Puis là, en plus, la salle de réunion, là, c'était une belle salle de réunion avec des montagnes, des sapins, un lac en face. C'était super beau. Et tu pouvais aussi te servir de cet espace-là pour travailler toi-même. Tu fais connecter ton écran, donc avoir ton vrai laptop devant toi. Mais travailler dans un espace virtuel. Et ça, je me dis, mon Dieu, quand tu es dans un endroit qui est pas nécessairement, qui est plein de distractions ou qui est pas nécessairement joli, une petite chambre d'hôtel moche, tu mets le casque, tu regardes ton écran d'ordinateur dans le casque et puis tu es dans un endroit magnifique avec somptueux, avec loin là, une perspective amusante. Tu travailles concentré. Vraiment le fun. La salle de réunion, il y a même de l'audio spatial. Alors, tu peux entendre des personnes se déplacer autour de toi. Tu sais que la personne qui te parle à gauche est à gauche. En tout cas, j'ai beaucoup aimé MetaQuest Pro. Il y a une chose qui a été répétée. J'ai aussi fait l'essai du HoloLens lors d'un événement Microsoft dernièrement. Et la chose qu'il faut savoir, ceux qui se disent la réalité augmentée, la réalité virtuelle, est-ce que c'est pour mon organisation, pour mon entreprise? Est-ce qu'on peut faire des réunions avec ça? Il faut l'essayer.
Faire des amis qui l'ont. Ouais. Puis surtout, et c'est là où le marché se trouve, c'est du marché des entreprises. Donc, les gens qui pensent avoir ça dans leur salon, le Quest 2 fait amplement le travail, sinon, effectivement.
Pour s'amuser dans son salon. Mais si pour le travail, je pense qu'encore une fois, on parlait de Cadillac versus d'autres véhicules pour se déplacer. Si tu es en entreprise, tu dois porter ton casque plus longtemps, plus efficacement, meilleure résolution, meilleur confort. Vraiment le fun. Le Quest 2, il y a quelque chose de particulier, il y a une batterie à l'arrière du casque. Alors, quand je l'ai pris, j'ai fait, voyons, il est bien lourd, le casque. Mais quand tu le mets sur ta tête, c'est super bien balancé pour que tu n'aies pas de poids devant, pas de poids derrière. C'est équilibré sur ta tête et ça ne touche pas ton nez. Donc, tu n'as pas de poids, tu n'as rien qui s'appuie sur le nez. Vraiment confortable, vraiment le fun. Si vous avez l'occasion d'en faire l'essai, cherchez si vous avez envie dans votre entreprise de travailler, de faire des télé-rencontres. On peut le faire par Zoom, on peut le faire par Teams. Mais en réalité virtuelle, ça ajoute une petite touche de présence qui m'a ému, je dirais. Ah. Je sais que je suis un grand sensible, mais oui, quand j'ai senti la personne virtuellement à côté de moi, j'ai été assez impressionné.
J'ai raté cette occasion d'essayer le bidule. J'étais chez le médecin. Il n'y a pas encore les options de télémédecine à ce point-là avancé que ça pourrait se faire à distance.
Il aurait fallu que tu envoies le casque chez le médecin, que tu aurais pu faire la présentation.
Je l'aurais demandé, mais je pense pas qu'ils veulent le distribuer librement.
J'espère qu'ils vont le faire. J'aimerais ça pouvoir le montrer en personne au podcast.
Ben oui, ce serait bon. L'essayer au quotidien, voir comment ça s'intègre, ce serait une bonne chose. On va passer. En fait, faudrait en avoir deux. Un chaque. Oui. Comme ça, on pourrait faire ça ici en virtuel.
Message de Meta.
On va en parler avec les gens de Meta, effectivement. On va passer aux actualités parce que si tu le permets, on va faire tout de suite le salut officiel à notre partenaire InfoBref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, abonnez-vous à l'infolettre matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Essayez ça, InfoBref matin, infobref.com. Il ne se passe pas une semaine sans que nous ne parlions, je sais pas, je fais trop de négation d'affaires, sans qu'on parle de ChatGPT. Et là, cette semaine, ça a bougé, je veux dire, trois fois plutôt qu'une. Il y a Microsoft, Google et Baidu qui se sont lancés dans l'aventure. Le gros morceau, c'est évidemment Microsoft qui a adopté ChatGPT, qui l'intègre à Bing et à Edge, si j'ai bien compris, Pascal.
Ouais, son moteur de recherche Bing, qui, on s'entend, tout le monde le connaît, mais c'est souvent le... une blague qu'on fait là au lieu de chercher sur un Google, on Google, hein, on Bing pas, Google sur Bing là, pour dire comment c'est dur de changer nos habitudes, mais en intégrant ChatGPT, le robot conversationnel dans son moteur de recherche, ils ont fait une belle démo. Le concept, c'est poser de vraies questions, obtenir des réponses complètes. On veut avec le moteur de recherche qui intègre ChatGPT répondre à des questions plus profondes, parce que quand on dit quelle est la circonférence de la Terre ou qui a découvert le lait condensé. Je sais pas, c'est une question, ça. C'est ça, on veut pas aller chercher un lien web. Ce qu'on veut, c'est pas un lien web. Ce qu'on veut, c'est la réponse. Et si le moteur de recherche peut nous donner des liens et sur le côté, c'est un peu ça qui est particulier dans l'interface. On voit des liens web comme à l'habitude, mais aussi une réponse qui va dire le lait condensé a été inventé en premier par telle personne en telle année. Le développement, la température fonctionne comme ça. Ça prend un processus tant d'heures à telle température et ça se déballe. Tu as beaucoup plus d'informations. Tu n'as pas besoin de fouiller dans des sites. Bing va faire des liens vers ses sources. Ça, ça peut être rassurant. Ça va permettre de préciser l'information, de valider l'information, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'information que le moteur de recherche va te donner va dépendre de la qualité de l'information qu'il a trouvée sur Internet. S'il trouve des faussetés sur Internet, il va les donner avec une grande certitude. Donc, ça peut être un peu confusionnant d'avoir ces résultats-là là, qui sont donnés comme si c'était la vérité vraie, alors que c'est des sources. On a donné des démos. Par exemple, trouve-moi 3 recettes pour un souper d'anniversaire spécial, des choses à faire à environ à 3 heures de Londres, donne-moi des suggestions, je vais en voyage. Ça permet de substituer, dans les recettes, peux-tu substituer les œufs par autre chose? J'ai tenté de faire les mêmes démonstrations, mais malheureusement, ça fonctionne juste avec les démonstrations qui donnent pour l'instant de mon côté. Ça va être déployé au cours des prochaines semaines, des prochains mois. En ce moment, certains utilisent peut-être que c'est vous, ont la chance de pouvoir l'utiliser. Ça peut être déployé plus vite ou plus lentement qu'on l'imagine. On mentionne de nous aider à générer une lettre de présentation, proposer des itinéraires en fonction de ces critères, encore une fois. Ça utilise un modèle, et je trouve ça très drôle, ils l'ont appelé Prometheus, Prométhée en français. J'ai cherché pour être bien certain, c'est le titan grec qui a dérobé le feu de l'Olympe pour le donner aux humains, qui est souvent utilisé comme métaphore pour les dangers de la technologie. Donc, la technologie, c'est bien, mais on peut se brûler. Donc, c'est très drôle qu'on nomme ça le moteur Prométhée, qui, paraît-il, utilise toujours OpenAI, ce sur quoi est basé ChatGPT, mais qui est plus précis, plus puissant et plus rapide. Ça fonctionne en français. Encore une fois, je le répète, pour l'instant, c'est qu'en mode preview, donc avec les questions préparées à l'avance seulement. Donc, ça peut être organisé avec... avec le gars des vues, on ne sait pas trop, ça va bientôt être dans la version mobile. Je suis content que pour une fois, ce soit pas mobile first, moi je suis très clavier écran. Et il y a aussi Google, tu l'as mentionné, Google qui a annoncé Bard, son intelligence artificielle générative qui va être intégrée à sa recherche Internet dès le mois prochain. Je pense que Google est en mode, on pédale très très fort pour rattraper le retard qui ont été moins vite que ChatGPT pour déployer un outil qu'ils avaient dans leur garde-robe. Ils avaient ça dans leur... mais probablement qu'ils voulaient peut-être faire des ajustements plus précis. Donc, ça va barder dans le monde de l'intelligence. Bard? Hein? Tu l'avais pas prévu. Je le vois à ton visage, Alain. Tu as sûrement la réussite.
Je n'osais pas la faire, celle-là, mais effectivement,
ça va sentais barder. L'événement a été diffusé sur YouTube, le dévoilement de cette information-là. Il est devenu privé tout de suite après. C'est rare d'habitude. Je pense que Google a fait ça en vitesse et puis s'est rendu compte que là d'ailleurs Google s'active sur mon téléphone. Tais-toi, Google. Il est fâché. Et même dans leur erreur, dans leur démo, il y a eu une erreur factuelle dans leur démonstration qu'ils ont faite de Bard. Ils ont mentionné, entre autres, que le télescope spatial James Webb aurait découvert la première photo d'une planète hors de notre système solaire, alors que c'était pas vrai. Donc, tu fais une démo, ton moteur de recherche, et ça fonctionne pas, c'est un peu louche. Et il y a le moteur de recherche chinois Baidu, qui intègre aussi son intelligence artificielle conversationnelle. J'imagine que ça va être le même principe. Là. Ça va devenir incontournable d'ici la fin de l'année. Bien fou.
Grosse histoire, cette histoire. Je vais juste préciser pour rajouter là-dessus que ChatGPT, on en a parlé il y a 2 semaines avec le grand patron de Draft & Go, la petite agence montréalaise qui fait des outils d'intelligence artificielle. Ils ont leur fameux détecteur de texte créé par des outils comme ChatGPT en français. C'était mis en ligne en français cette semaine. Ça se trouve à détecteur, T-O-R. C'est en anglais, malheureusement, le nom. Détecteur.dng.ai pour les enseignants, les gens que ça agace, qui se demandent si les informations qu'ils reçoivent sont peut-être créés par un ordinateur. C'est pas 100% précis. Ils disent qu'ils sont plus précis que l'outil d'OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT, qui lui a une précision de 26%. Donc, ça laisse un peu de marge, mais je pense qu'il disait à l'émission l'autre jour qu'il y a une précision des alentours de 80%.
Mm-hmm.
Donc, les gens qui s'intéressent, qui s'intriguent, qui se demandent si ces choses-là sont utilisées, fait passer ça là-dessus. Ça marche en français, dans plusieurs autres langues. Ça utilise l'outil, le moteur de langage naturel GPT-3. Qui est derrière ChatGPT, vous pouvez aller voir ça. Ça fait le tour. On va faire une petite courte pause. On revient, Pascal, dans un instant avec nos essais de produits et notre invité. On va parler d'impôts et de comment calculer son impôt. Restez avec nous.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech, édition fiscale, je devrais dire. Je fais ça pour faire plaisir à Pascal. Je sais que tu aimes ça quand on trouve des... je peux situer dans le temps la balado, si tu trouves ça important.
Une hernie fiscale, c'est le jeu de mots qui me vient.
Oh boy!
Une hernie, c'est toujours un moment angoissant pour moi de faire ma déclaration de revenus. Alors, je suis très, très curieux de voir qu'est-ce que talent.com peut apporter.
Je pense que tu touches un point. Il y a beaucoup de gens qui oublient de le faire, des gens que ça stresse. C'est super compliqué pour rien, souvent. Puis c'est la saison qui s'amorce, là, février, les relevés, les documents fiscaux devraient rentrer par la poste et ou par le courriel, je ne sais pas comment vous êtes. Et si vous demandez, surtout après 2 ans de pandémie où on a eu de l'aide du gouvernement, on n'a peut-être pas eu d'aide du gouvernement, on a eu des choses qui sont imposables, des choses qui ne le sont pas. Il y a une compagnie à Montréal qui s'appelle Talent.com qui est un agrégateur d'offres d'emploi, mais qui a aussi mis à la disposition des gens un calculateur d'impôts, puis comme l'impôt, ça évolue sans arrêt, je pense que je me disais que ce serait intéressant d'en parler. Et pour en parler, on a avec nous Yannick Paradis, qui est directeur des ventes pour Talent.com. Bonjour Yannick.
Bonjour Alain.
Parlons un peu de ce calculateur d'impôts. Qu'est-ce que ça permet de faire? Puis qu'est-ce qu'on fait là? On va là, on rentre 2-3 chiffres, puis on a comme par magie le résultat de ce qu'on va payer ou pas en impôts.
Par magie, aussi simple que ça.
Écoute, si ça existe, moi...
Ben, faut le dire d'abord, hein, cet outil-là ne remplacera pas le rapport d'impôt. Hein, mm-hmm. C'est pour avoir des chiffres, mais il faut tout de même faire son rapport d'impôt. L'outil, en fait, calculateur d'impôt existe depuis 2008. Okay. L'objectif, si on veut, de sa création, c'était de supporter davantage les candidats dans tous les aspects de leur recherche d'emploi. Parce qu'on est un site d'emploi. Essentiellement, on est un agrégateur qui ratisse le web pour chercher l'ensemble des postes disponibles. Alors, c'est un outil qui guide, si on veut, le candidat dans sa prise de décision, ou du moins, il donne l'information sur sa rémunération après impôt. Okay. Alors, ça remplacera pas le rapport d'impôt, mais ça va quand même lui donner une idée là, du cumulatif, surtout s'il a changé d'emploi durant l'année ou s'il a changé de province. C'est compliqué, les impôts. On comprend pas le fonctionnement des impôts, les paliers, les taux effectifs, le taux marginal, les déductions et autres. Fait que cet outil-là va permettre, en fait, de d'éclairer la situation un petit peu plus.
Oui, ça va quand même un petit peu plus loin que juste dire voici mon salaire, voici combien ça devrait se traduire en termes d'impôts, là.
Ben, ça a été créé, si on veut, pour compléter l'expérience de recherche d'emploi, mais ça va permettre de donner une idée concrète, si on veut, de j'ai mon salaire brut, j'ai mon salaire net, où va mon argent? Alors, toutes ces questions d'imposition fédérale, provinciale, RRQ, RQAP, bon, alors, il y a beaucoup d'impondérables, par exemple, sur lesquels cet outil-là donne une idée générale. Mm. Et si on a des REER, si on a des revenus additionnels qui proviennent d'autres sources, si on a fait des dons, tout ça va impliquer, va affecter notre impôt, là, mais autrement, on peut avoir toute cette information-là dans le calculateur de salaire, que ça soit hebdomadairement, quotidiennement même, ou selon notre salaire à l'heure. Mm-hmm. Bref, un outil qui vulgarise, si on veut, l'information pour le commun des mortels.
Et je vois même que le Taxburg, selon la province où on est, qui nous dit que le salaire net qu'on obtient, le montant qu'on verse, le montant qui est versé par l'employeur, puis ça nous dit le montant total des cotisations et le pourcentage réel de ce que vous payez en impôts, en taxes. Et je trouve ça fascinant parce que si tu te fais offrir une belle job en Ontario, par exemple, tu te dis hey, wow, 5 000 de plus, mais tu te le fais bouffer en impôts, tu te le fais bouffer en taxes, ça peut être un peu décourageant. Ça calcule aussi, je vois le salaire toutes les 2 semaines, à tous les mois, combien ça équivaut par heure. Alors là, ça peut permettre de dire, hey, oh, tu me proposes tant de l'heure, l'autre propose tant de 1 000 par année, tu peux tout de suite faire un calcul. Je réalise que je pourrais demander une augmentation sur certains des contrats. Ici, voilà, merci, talent.com. Vous m'éclairez.
Ça va, ça. Ben, c'est intéressant parce que, en tout cas, dans les technos, de ce que j'entends, il y a beaucoup d'employeurs qui viennent de l'extérieur du Québec et même du Canada, parfois embauchés directement ici. Donc, ça doit effectivement affecter tous ces calculs-là. Puis, ça doit être un peu mêlant. Je ne sais pas chez talent.com quel genre de données vous avez là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui réalisent souvent, qui oublient de faire carrément leur rapport d'impôt et qui se reprennent plus tard. Puis là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, avec les avec la COVID et tout ça, il y a eu des aides gouvernementales qui sont ajoutées qu'on oublie peut-être qu'on a eues. J'imagine que tout ça doit affecter finalement le revenu net que les gens obtiennent après avoir changé d'emploi, là.
Oui, certainement. Pour vous donner des chiffres sur ça, je ne serais pas en mesure de le faire, mais il y a clairement eu beaucoup de mouvements dans le domaine de la technologie, on le sent. Et en même temps, le besoin des gens, que ce soit programmeurs ou autres, est tout à fait présent, même si les Amazon ou autres de ce monde, ou les Spotify vont réduire leur effectif. Il y a énormément d'entreprises qui sont toujours à la recherche de ces candidats-là. Alors, il y a plusieurs tendances qui sont intéressantes dans le marché, cependant, au-delà là, des mises à pied en grand nombre là, dans les boîtes technologiques.
Dans la dernière année. Faisons la transition parce que j'allais le demander. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, peut-être qui pensent que le marché n'est plus ce qu'il était en termes de demande de talent, disons-le comme ça. Est-ce que vous voyez ça de votre côté aussi ou est-ce que la demande est encore forte pour les gens qui justement auraient peut-être perdu leur emploi là, dans les dernières semaines?
Ah, bien au contraire, justement, la demande est encore très, très forte. Il faut être rassuré. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait, mais causée entre autres par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors là, c'est peut-être pas là, mais la demande n'est peut-être pas là, mais l'offre l'est. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'emplois qui sont à combler. Des tendances aujourd'hui qu'on trouve intéressantes à suivre. On reste toujours à l'affût de ça. T'sais, on a entendu parler beaucoup l'année passée de quiet quitting, là où les candidats faisaient
strictes nécessités.
Poste à moins d'être rémunéré davantage. Là, ça s'est transformé. Récemment, on le voit souvent sur TikTok et autres plateformes en rage applying, c'est-à-dire, comment on traduit ça, en application, en furie, c'est-à-dire qu'on va appliquer un peu partout parce qu'on est frustré par quoi que ce soit chez notre employeur actuel ou on est dans un état toxique au bureau. Puis, il y a eu la transparence salariale qui est encore d'actualité, là, où les candidats disent à quel point c'est important de savoir le salaire avant d'appliquer. On a d'ailleurs fait un sondage avec DG Marketing l'an dernier où le Québec a parlé fort. Là. Les Québécois ont parlé fort. À 76% des gens sont pour la transparence salariale. 80% pensent que c'est important avant même d'appliquer et 60% disent que c'est très important. Fait qu'on le voit déjà là, chez nos voisins du Sud. Hein, certains États l'ont déjà rendu obligatoire, donc c'est la loi que d'afficher une tranche salariale ou du moins les salaires. Colorado, Californie, ville de New York, ainsi de suite, comme c'est le cas aussi en Europe. Alors bref, je ne sais pas si on est rendu là, mais clairement, là, le gouvernement va devoir s'impliquer à un certain moment pour aider nos employeurs dans tout ça. Ouais.
Parle-nous un peu de la plateforme talent.com. Moi, je la connais depuis un petit bout de temps, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis, j'étais content parce que c'est une entreprise québécoise qui est derrière ça. Puis, c'est quand même un des gros joueurs dans le marché. Où est-ce que vous situez par rapport à d'autres plateformes du même genre?
Tellement de belles histoires, en fait, de trois entrepreneurs québécois. Sur la rue Saint-Denis, dans un loft, en 2011, et ont décidé de partir un agrégateur. Aujourd'hui, on est rendu 500 employés. On est dans 78 pays. 100 millions de visiteurs par mois au Canada qui viennent à la recherche d'emploi. C'est 1 million de postes d'affichés d'un océan à l'autre au Canada. On a 6 bureaux à travers la planète. Vraiment une histoire québécoise de succès. Là. Et la croissance ne fait que continuer. Hein. En 2019, on a reçu 53 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec. juste en mars dernier, on a reçu un nouveau vote de confiance énorme du marché avec un nouvel investissement de 120 millions US.
Ah oui.
Alors, la croissance est au rendez-vous. On est vraiment heureux chez Tana.com d'aider tous ces candidats-là qui nous font confiance.
Donc, malgré qu'on est pratiquement en plein emploi, il y a quand même dans le marché du travail, il y a quand même du mouvement qui vous permet de voir de la croissance. Là.
Absolument. En fait, je vous dirais que dans le marché du recrutement en ligne, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Hein? Il y a le Coke que tout le monde connaît, le gros monstre mondial. Mm-hmm. Et ben, on peut être ce Pepsi à ce Coke. Et dans certains marchés, on l'est déjà. On est presque nez à nez avec la plateforme majeure de recrutement en ligne.
Mm-hmm.
Tout le monde cherche des alternatives à une plateforme qu'ils connaissent, qu'ils ont utilisée. Et ben, on est cette alternative-là chez Tana.com. On est bien là.
Est-ce que vous avez, je serais curieux de savoir, parce qu'on parle de salaire puis de transparence, puis effectivement, il y a de l'information là-dessus. Je sais qu'au niveau gouvernemental au Québec, il y a cette volonté en ce moment de faire hausser. On parle de la richesse globale, mais ça se traduit par des salaires ou des meilleures conditions d'emploi pour les gens. Est-ce que vous voyez une tendance dans le marché? Est-ce que les Québécois en ce moment sont, lorsque vous voyez dans le genre d'offres qui sont publiées, dans le genre de salaires qui sont partagés? Est-ce que ça s'améliore, la situation des travailleurs au Québec?
Oui, en fait, il y a une demande claire de la part des candidats d'avoir plus de transparence. Ça, mm-hmm. ça se traduit aussi dans la rémunération globale. Il faut voir au-delà de juste le salaire aussi, parce que dans certains cas, il y a des choses qui sont difficilement chiffrables. Donc, dans la rémunération globale, pour un employeur, c'est important de le définir. Il n'y a pas juste le salaire, mais il y a aussi toutes les conditions de travail. Aujourd'hui, on le sait, le télétravail, ça devient quasi essentiel. Mm-hmm. D'autres tendances qui sont de plus en plus importantes et les employeurs sont créatifs, par exemple, d'offrir la possibilité de travailler à l'étranger pendant un mois. Sans problème, on va même te donner une bonification, par exemple, de quelques milliers de dollars. C'est des choses qu'on voit et de plus en plus, les candidats s'y intéressent. Travailler 4 jours par semaine, hein? Tout le monde aimerait ça.
Après ça, 3. Après ça, 2.
Après ça, c'est la retraite, Pascal.
C'est drôle parce que vous parlez du quiet quitting puis du rage applying. Ce que vous avez mentionné de faire plein de choses. Moi, je me demande, c'est quoi que vous voyez? Est-ce que vous voyez des tendances chez les demandeurs d'emploi? On entend toutes sortes de trucs. Moi, j'entends des histoires d'horreur de candidats qui veulent pas travailler les jours impairs, qui veulent pas travailler les soirs, les fins de semaine, les mardis, ils veulent pas travailler l'après-midi. Finalement, ils prennent des congés à longueur de journée. Dès qu'ils se cognent le doigt, ils prennent 3. Et est-ce qu'il y a des candidats épouvantables? Est-ce que vous voyez une tendance de candidats étranges, disons?
Ben, les demandes sont de plus en plus grandes de la part des candidats, ça, on le sait. En même temps, il faut rester logique, c'est-à-dire qu'un Big Mac va pas se faire en télétravail. il y a des exigences à certains corps de métier. Mais oui, il y a de plus grandes exigences, puis en même temps, ben, les employeurs sont prêts à ça.
Ils sont
beaucoup plus ouverts qu'ils l'ont jamais été, parce que, en même temps, il y a cette pénurie, ça va de soi. Tout suit l'offre et la demande. Mais on le voit qu'en effet, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande de la part des employeurs, mais reste que la demande est omniprésente de la part des candidats.
Wow. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des tendances plus fortes que l'autre? Je ne sais pas si vous constatez, je ne sais pas au niveau du. C'est plus seulement le salaire, je pense, qui est le critère pour trouver un nouvel employeur. Parlons du côté de la personne qui cherche un emploi. C'est plus seulement le salaire, c'est les vacances, comme vous l'avez mentionné, ou le fait de faire ça à l'étranger. Est-ce qu'il y aurait d'autres tendances particulières qui se dessinent?
Absolument. D'ailleurs, dans l'étude qu'on avait faite avec l'élu, je pense que l'authenticité d'un employeur a son impact beaucoup plus important aujourd'hui qu'avant. Avant, on regarde principalement le salaire et d'attitude. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus qu'on peut vivre chez un employeur. Donc, l'ouverture d'esprit, de se soucier de son candidat, d'avoir la rétention puis le bonheur de son candidat en tête, c'est des valeurs qui sont de plus en plus importantes pour les candidats qui, je crois, deviennent de plus en plus intelligentes.
Mm-hmm. Naturellement. J'allais dire, parce que le 4 jours semaine m'a accroché, je pense que je vais donner mon numéro. Mon numéro de mon employeur que vous lui parliez et vous convainquiez de me donner 4 jours semaine.
Ça me fera plaisir.
Intéressant, ça. Et on voit des tendances, mais c'est vrai que le marché est en train de changer. Puis la bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est qu'il y a quand même encore... on n'est pas dans une situation, parce qu'on parle beaucoup de au niveau macroéconomique, des turbulences actuelles, mais clairement, dans le marché de l'emploi, ça continue de bien aller. C'est ce que vous voyez aussi de votre côté sur talent.com, si j'ai bien compris. Là.
Absolument, absolument. Je pense que le ciel est bleu. On parle beaucoup de possibles récessions et ainsi de suite, mais pour l'instant, je vous dirais, je crois qu'il y a encore un aspect positif au domaine de l'emploi, mm-hmm. Certains corps de métier plus que d'autres, évidemment.
Ouais, c'est une transition, de toute façon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer de l'impôt quand on travaille. L'autre partie de l'affaire, c'est que si on paye de l'impôt, c'est parce qu'on fait de l'argent. C'est ce que ma mère me disait toujours. Donc, je pense qu'il faut le prendre de ce côté-là, probablement.
Bon, on serait tous d'envoyer un chèque d'un million en impôt à notre gouvernement, n'est-ce pas?
C'est un beau problème, je trouve. Si t'as envoyé un chèque d'un million d'impôt, moi, je pense que c'est un beau, beau, beau problème. Faut voir le beau côté des choses. C'est beaucoup d'impôts, mais c'est beaucoup de revenus pour payer ça.
Ça va avec, nécessairement, effectivement. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, un calculateur d'impôts sur talent.com. Allez voir ça, Jacques, ça intéresse. Yannick Paradis, directeur des ventes pour talent.com. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous pour l'invitation, ça m'a fait plaisir.
Nous, on prend une courte pause et on vient avec nos tests de produits la semaine. Restez avec nous.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est la partie de l'émission où on s'éclate un peu plus. Il y a eu surtout qu'il y a eu de l'action du côté des nouveautés électroniques, informatiques dans la dernière semaine. Il y a eu deux nouveaux téléphones, en tout cas deux nouvelles familles de téléphones, parce qu'il y a eu le Galaxy S23 qui en représente en fait trois différentes versions. Et il y a eu celui que toi, Pascal, le OnePlus 11, qui vient d'être présenté par OnePlus et qui, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais revient un peu à ses... sans être entièrement fidèle à ce qu'il était à l'époque, mais revient un peu à ses origines, d'une certaine façon-là.
Oui, le OnePlus 11, il n'y a pas de OnePlus 11 Pro cette fois-ci. Avant, il y avait le 10 Pro. Il n'y a pas eu de 10 tout court il y a 6 mois. Là, il y avait un 10 Pro. Là, il y a un 11, il n'y a pas de 11 Pro. Ça a toujours été OnePlus des téléphones qui se voulaient des flagship killer. Ils voulaient toujours offrir des téléphones abordables qui, habituellement, l'affaire qui arrivait était très puissant pour le gaming, très le fun, bonne batterie, beaucoup de caractéristiques utiles, mais pas nécessairement des très bonnes photos. Au cours des dernières années, ils ont fait des collaborations avec Hasselblad sur leur modèle S. Ils ont commencé avec le OnePlus 9, je crois, avec Hasselblad pour améliorer le rendu des couleurs. Et j'ai le 11 dans les mains. Il commence à 1 000 $. Je trouve que tu en as beaucoup pour 1 000 $ si on compare aux autres téléphones. J'ai ici quelques specs, là, j'ai pris des notes. Le modèle à 1 000 $, c'est celui de 8 gigs de RAM, 128 gigaoctets de stockage. Pour 1149, le Geek va peut-être être plus satisfait. Pour 149 $ de plus, tu as 16 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage. Où l'on commence à parler, pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'applications, beaucoup de jeux, il est offert en vert éternel et en Titan Black, le modèle que j'ai. C'est un noir qui est légèrement... Ah, toi, t'as le vert. Voilà.
Le vert est pas si mal, oui. Ben, c'est un vert...
très joli.
Vert bouteille un peu, le vert gris un petit peu, mais... C'est je trouve ça bien, cette notion d'ajouter une couleur à chaque année. Ça permet de distinguer l'année du modèle facilement. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, définitivement.
Et c'est très drôle parce que le Titan Black, moi, quand je l'ai vu, je me dis, ah, il va avoir le petit rugueux du premier OnePlus. Je sais pas si tu te souviens, le premier OnePlus avait comme un fini qui était presque comme du papier sablé. Il était presque trop rugueux. Il y avait l'avantage de jamais glisser de ta poche ou de tes mains. Très, très le fun. Donc, il y a un léger rugueux, mais c'est pas aussi rugueux que j'aurais aimé. Il y a le retour de la glissière à 3 positions sur le côté, comme celle des iPhones, qui permet de mettre le téléphone en mode silencieux, vibration ou en mode normal. La recharge est
super rapide. Il y a un adapteur 80 watts qui est dans la boîte. Mm-hmm. Pas de recharge par induction.
Pas de sans fil, non, effectivement. C'est une façon de couper les coûts. Si tu as déjà un pavé de recharge, je peux comprendre l'agacement, mais ça va tellement plus vite de le brancher.
Totalement. Puis à cette vitesse-là, à 80 watts, écoute, t'as 15-20 minutes, t'en as assez pour le restant de la journée. Sinon, le lendemain, la durée de la pile est excellente. Ça utilise le Snapdragon 8 Génération 2, qui donc pourrait être compatible avec la connectivité satellite promise par Qualcomm pour cette année, pour ce type de processeur-là. Bien, de voir si c'est possible, c'est intégré, ça va être rétro-compatible. J'ai pas trouvé d'annonce là-dessus, de précision là-dessus. Il y a 3 caméras à l'arrière, calibrées par Hasselblad. La troisième génération de leur appareil, une caméra ultra large, 115 degrés, téléphoto, un écran de 6,7 pouces. Si vous voulez un grand écran pour le gaming, regarder des films et tout. L'écran dynamique de 1 à 120 Hz dynamique. Des fois, c'était 10 Hz le minimum. C'est rendu de 1 à 120.
Ouais, c'est 1 Hz sur le Always On. Quand l'écran est, tu comptes sur la recharge, puis il affiche là, il change seulement une fois par seconde. Donc, 1 Hz, c'est vraiment une fois la seconde.
Mise d'énergie, c'est chouette. Absolument. Gorilla Glass Victus, très résistant aux choses sur l'écran seulement, pas sur le dos, étrangement. Il n'y a pas de résistance à l'eau au Canada, donc c'est pas une grosse certification. Les photos, évidemment, faut en parler. J'ai pris quelques photos avec. C'est drôle parce que je l'ai fait essayer à un jeune, le fils d'une amie qui était toujours en train de dire, ouais, les photos sont meilleures avec mon iPhone et tout. Puis il a fait,
bien sûr, les gens qui ont d'iPhone disent souvent ça.
Ouais, mais il était agréablement surpris par la qualité des photos. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs, l'iPhone de la génération précédente. J'ai essayé de le comparer avec celle du Pixel. Toi, tu as pu le comparer, j'imagine, avec celle du téléphone de Samsung. Mm-hmm. Je pense que c'est rendu, là, c'est une question de goût, là. Écoute, il faut regarder avec une loupe. S'il faut regarder avec une loupe là, les photos, puis il faut regarder la balance des couleurs, puis la précision. Je pense que c'est vraiment une question de feeling. Est-ce qu'on aime les couleurs plus dynamiques?
On va la chanter, celle-là.
Question de feeling.
Je suis d'accord avec toi. Je vais dire ceci, juste pour rajouter ma précision sur la photo. Il y a deux choses que je trouve agaçantes. Le zoom, le téléphoto n'est pas assez bon, n'est pas assez loin. Ce qui les rend un peu moins attrayants, peut-être. Et à son avantage, et ça, c'est vraiment 100% une question de goût, la fidélité des couleurs sur le OnePlus 11 est excellente. Quand on prend une photo, sur la photo, la couleur du mur, du ciel, de n'importe quoi, est exactement la même que dans la vraie vie. Ce qui n'est pas le cas on en reparlera tantôt du S23, mais beaucoup de l'iPhone fait la même chose. Il surcompense ensuite. Le Pixel 7 fait ça aussi. Ça donne des photos qui ont le plus l'air factice que fidèle. Et là, la OnePlus 11, si c'est son truc pour le démarquer, c'est ça. Il fait des photos extrêmement fidèles. Assez nettes, mais très fidèles, surtout en termes de couleurs, puis de balance des blancs et tout ça.
C'est très difficile à dire. La chose qui est drôle, c'est que je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé les téléphones OnePlus. Je trouvais que c'était un troisième joueur super intéressant. Sauf que on dirait qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas de caractéristiques distinctives.
L'élément de wow.
Wow, tu sais, je suis tel type de personne, je vais aller vers le OnePlus par défaut. Il essaie d'aller chercher les gens d'Apple, essayer d'aller chercher les gens de Samsung. Très, très bon appareil, très, très le fun. Je trouve que le modèle avec 16 gigs de RAM et 256 gigs de stockage, peut-être pour les gamers, pour les gens qui aiment jouer, vont peut-être avoir plus de plaisir, recharge rapide et tout. Les photos sont maintenant excellentes et je dirais
indiscernables. C'est un peu plus agressif sur le prix, en fait.
Et c'est ça, s'il était plus agressif pour le prix, ça pourrait être encore plus intéressant. Il était très, très agressif sur le prix. Moi, je pense toujours que le Pixel 7 Pro, pour ceux qui veulent un téléphone Android, reste une excellente option à partir de 979 $.
Ben oui.
Jetez un coup d'œil là-dessus, mais le OnePlus 11 est aussi pour les geeks qui s'assument. C'est comme une... Je sais pas, en termes de voiture, c'est comme une Maserati. Tu sais, ce serait une marque un peu haut de gamme, mais distinctive, tu sais.
C'est original. C'est comme la Saab des téléphones.
Voilà, ça, la Saab des téléphones.
Je peux te parler de marque de char, moi aussi.
Oui, t'es peut-être un peu plus calé que moi là-dessus. Merci pour la Saab des téléphones cellulaires.
Voilà. Surtout qu'à Hasselblad, c'est suédois. Donc, il y a un petit lien
avec mon Saab. Dieu!
N'est-ce pas?
Voilà.
Je vais dire un truc à propos du OnePlus 11 et je vais tout de suite ensuite parler du Galaxy. Il vient avec, si vous voulez, des écouteurs, les Buds Pro 2 de OnePlus qui m'ont agréablement surpris. Mm-hmm. Une chose qui est intégrée à l'appareil, on en a parlé il y a une semaine ou deux, il vient avec la compatibilité avec deux choses, du son sans compression, LDAC, et du son spatial, qui permet de se situer un peu comme dans la réalité virtuelle, et qui n'est pas malheureusement assez à point. Si vous comparez iPhone et AirPods Pro à OnePlus 11 et Buds Pro 2, l'iPhone l'emporte sur la spatialisation. C'est vraiment plus réussi, mais au moins c'est compatible et ça va s'améliorer avec le temps. Un truc aussi que je vais ajouter, et ça va me permettre de faire le pont avec Samsung, c'est que OnePlus et Samsung ont annoncé, et c'est nouveau de ce moment, de cette semaine, de maintenant, 4 mises à jour du système sont supportées, au moins jusqu'en fin 2027, donc votre téléphone va durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des mises à sécurité qui vont durer encore plus longtemps, 5 ans, mais les mises à jour du système d'Android comme tel, il y en a 4 qui vont être supportées officiellement. Je sais pas à quel point ça vient maintenant rapidement quand Google les lance, là, parce que sur le Pixel, c'est immédiat. Je sais que Samsung, avant, c'était éternellement long qu'il fallait attendre avant d'avoir la mise à jour, parce qu'il vérifiait un paquet d'affaires.
OnePlus est assez rapide.
OnePlus c'est un truc qui va bien avec
l'oxygène OS.
Ils ont tendance à faire ça vite, t'as raison.
Ouais,
fait que,
ouais.
À suivre de ce côté-là. On parlait de la photo. Celui-là, c'est le Galaxy S23 Ultra. C'est le gros des Galaxy, le gros modèle. Il est 1650 $. Là, évidemment, il est amortissable mensuellement de plein de façons, mais c'est son prix déverrouillé d'un coup, c'est très cher, mais c'est aussi un très bon téléphone, ça explique. Et la particularité, évidemment, à part du fait qu'il fait 6,8 pouces, qu'il est énorme et qu'il remplace en même temps le Galaxy Note d'une autre époque, c'est qu'il a la meilleure caméra que Samsung propose sur ses S23. Il a 4 objectifs, plus un espèce de capteur de lumière, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a 5, mais vraiment, il y a vraiment 4 lentilles. Et la plus grosse, c'est la plus captivante, la plus intéressante, c'est la caméra à 200, le capteur à 200 mégapixels qui accompagne le gros objectif, le téléobjectif, pas le télé, le grand angle, mon Dieu, je m'arrête dans mes mots, qui fait donc des photos en RAW et en JPEG de 200 mégapixels. C'est beaucoup de pixels. Le S22 Ultra en faisait 108. Là, on est rendu à 200. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces pixels? Ben, on fait différentes choses. On prend des très grandes photos et on peut aller cadrer sur un sujet avec plus de détails. Mm-hmm. On peut éditer les photos parce qu'on peut les sauver en RAW. Et il y a beaucoup des réglages de cette photo-là, 200 mégapixels, de ce mode de 200 mégapixels qui sont réservés à un onglet dans les outils de l'application photo, qui est un onglet pour expert, avec des gros guillemets, parce qu'on n'a pas besoin d'être expert, juste besoin de vouloir bidouiller un peu. Parce que quand on prend ces photos-là, ensuite, ce que nous offre le téléphone, c'est d'aller les ouvrir directement dans Adobe Lightroom, l'application Lightroom, comme de chambre noire numérique d'Adobe. Donc, de faire de la retouche sur l'ajustement des couleurs, la gamme dynamique, ces choses-là. Ce qui permet de bidouiller pas mal plus avec. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais évidemment, dans un contexte d'utilisation très spécifique, c'est-à-dire qu'il faut vouloir s'en servir, puis il faut savoir bidouiller avec les photos après, parce que c'est pas un point and shoot quand on fait ça. C'est vraiment, on prend des photos parce qu'on veut ensuite retravailler ces photos-là. Donc, c'est un usage assez limité. Dans le reste du temps, on a des belles photos quand même. Le capteur de base fait 50 mégapixels. Il prend des belles photos jusqu'à, je veux dire, 10x. Après ça, on sent vraiment la pluie parce qu'on peut aller à 30, 50 et 100x dans le cas du S23 Ultra. C'est pas même plus limité dans le S23 et S23 Plus, là, on se comprend, mais dans le S23 Ultra, on peut se rendre à 100x, ce qui est utile, mais c'est pas beau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut zoomer super loin pour voir un bout de texte qu'on n'arrive pas à déchiffrer sur une pancarte ou un truc comme ça, où on peut aller super loin pour savoir, mais ma parole, qui est cette personne là-bas? Mais on peut pas dire, c'est une belle photo portrait, je vais la faire encadrer parce que le résultat est pas beau. Il y a beaucoup de surcompensation, parce que durant la démonstration, il expliquait, là, il combine des pixels ensemble pour aller chercher des contrastes, aller chercher des détails, des choses comme ça. Le résultat, c'est qu'on voit la surcompensation, on voit le travail logiciel qui est appliqué ensuite. Et contrairement à OnePlus 11, qui, moi, je trouvais très fidèle au paysage, au niveau des couleurs, tout ça, Samsung, et ça a toujours été le cas sur tous les appareils Galaxy dont je me souviens, on surcompense les couleurs, on sursature, on améliore. Il y a beaucoup de retouches numériques ensuite qui seraient vraiment le fun si on pouvait les enlever.
Oui, ben c'est ça, d'avoir un mode plus naturel,
ouais.
Mais je pense que c'est l'inconvénient de filmer le mode RAW. Si tu prends une photo RAW, elle est plate.
C'est qu'à partir de là, on peut au moins travailler pour l'effet qu'on désire aller rechercher. Donc oui. Ça, c'est peut-être un élément. Il y a un autre truc, on peut parler de la photo pendant des heures sur ce téléphone-là. Il y a des modes de prise de photo que j'ai trouvé assez intéressant. Il y en a un particulier qui permet de superposer jusqu'à 9 clichés un par-dessus l'autre sur la même image pour faire des effets créatifs.
Mm-hmm.
Et là, je m'imaginais faire des photos de sport, tu sais, où on décompose l'action en 8, 7, 6, 5. plein de c'est difficile parce que les ajustements de couleurs, tout ça, sont pas naturels, mais ça permet de faire des photos assez créatives. Dans l'ensemble, c'est un super beau, super bel appareil photo. Mm-hmm. Évidemment, il y a ses limites. Je sais pas pourquoi Samsung, il y a parlé un bout de temps, jouait avec l'option d'avoir un zoom optique, donc de pouvoir vraiment aller chercher comme une caméra automatique. De 3-16 comme une vieille caméra. Là, ils ont abandonné cette chose-là. On vient avec un modèle plus classique. Bon, c'est une limite. Il y a beaucoup de réglages qui sont, comme je le disais tantôt, qui vont dans un onglet, ce qui est une application à part qui s'appelle Expert RAW, où là, il faut être plus habile avec les réglages. Pour le reste du téléphone, écoutez, c'est Android 13 avec le One UI de Samsung. Moi, je suis pas un fan de l'interface logicielle de Samsung. Je trouve qu'elle est elle fait vieillot. Elle est... pas super. C'est rien à côté du Pixel qui a vraiment une plus belle interface logicielle, qui est peut-être plus intuitive. Mais c'est le couteau suisse des téléphones Android. Hein. Le Galaxy S23, tous les réglages que vous pouvez imaginer, toutes les bébelles, tous les gadgets qu'on peut imaginer qui sont inclus dans Android sont présents et peuvent être activés, désactivés, en tout cas personnalisés, puis ainsi de suite. Il y a une batterie là-dessus, parce que le téléphone est gros, de 5000 mAh qui, en principe, devrait se faire pour une journée, mais je vais vous dire, la batterie se draine super vite sur ce téléphone-là. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à une journée et demie facile et j'arrive à une journée correcte, mais l'autonomie est plus courte que je pensais. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu déçu. Et finalement, la petite patente, la petite affaire qu'on oublie tout le temps, il y a Samsung a développé quelques années une interface pour de bureau sur Android qui s'appelle DeX.
DeX.
Vous avez un câble Thunderbolt et vous avez un moniteur compatible, vous le branchez et vous avez un ordinateur de bureau complet qui se présente devant vous sur Android avec les applications du téléphone, mais qui ressemble comme un travail de bureau. Donc, vous pouvez avoir un ordinateur complet dans votre poche avec ce téléphone-là. Donc, pour les gens qui savent pas trop, là, quand ils partent en télétravail très léger, j'ai-tu mon téléphone, j'ai-tu mon laptop, j'ai-tu ma tablette, vous pouvez avoir juste un téléphone, un bon câble et vous vous branchez là où vous avez besoin d'aller avec... le téléphone agit comme un pavé tactile, ça vous prend juste un clavier. Et vous êtes parti avec un ordinateur complet. C'est assez amusant, ça.
Oui, je me permets de faire une mise en garde. Hein. Ça marche, mais faites l'essai avant. Parce que c'est quand même... c'est pas un ordinateur complet. Là. C'est
faut être prêt à sacrifier certaines choses, mais c'est possible de le faire. Mais je veux dire
oui,
ça comme
tout
ça.
À fait. Si tu as besoin d'écrire un texte, ton laptop est brisé, par exemple, tu te fais voler ton laptop, oui, tu peux brancher un clavier, tu peux travailler, tu peux te dépanner solide. Et les fichiers restent dans ton téléphone, donc pas de transfert à faire. Gros avantage de DeX. J'aimerais que ce soit sur tous les téléphones Android, hein, d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi il y a pas une interface web. J'espère qu'avec la tablette... d'ailleurs, OnePlus, j'ai oublié de le mentionner, OnePlus a annoncé une tablette et aussi annoncé un clavier étrangement. Alors, bien hâte de voir si les deux vont se parler correctement, mais ça peut être une belle alternative à un laptop, justement.
Donc, 1650$ pour le Galaxy S23 Ultra. Je suis ambivalent, c'est un beau téléphone, coûte cher, par exemple. Faut vraiment... Tout ce dont je viens de parler, là, la photographie, le DeX, le jeu vidéo même, tout ça, il faut vraiment... être un super utilisateur pour pouvoir se le permettre parce que ça revient cher vite. Et sinon, c'est peut-être un petit peu de gaspillage. Mais bon, ça vous de comparer, il va y avoir des spéciaux, c'est sûr, dans les prochains mois. Samsung en fait souvent. Et sinon, si vous voulez, parce que tu as parlé du OnePlus 11, je veux dire ceci, le OnePlus 11, en plus, a un tiroir à double SIM. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous agace, il peut avoir deux SIM. Oui. Dans tous les cas, il y a aussi la possibilité d'avoir des eSIM facilement.
eSIM en plus, c'est
même
fou,
plus,
ça.
C'est même pas un tracker. Voilà. Deux téléphones pour finir ça en beauté parce que c'est quand même pas si mal.
Excellent, ça va nous permettre de faire un lien, de se voir vers notre partenaire Plan Hub, ceux qui voudraient obtenir un bon deal sur leur S23 dans leur forfait, peuvent aller sur Plan Hub, voir les différents forfaits qui sont proposés par les opérateurs. TELUS aussi, qui est notre partenaire téléphonie. Jura, qui nous permet de prendre, qui me permet d'abuser de la caféine régulièrement avec du délicieux café, avec du lait ou pas. C23, le groupe Cogeco qui distribue et met en onde le podcast. Merci beaucoup à Claude Hébert qui fait le montage audio, pascalforgette.com. Vous pouvez me lire si vous voulez. J'ai mis un billet en ligne sur la Jura 8 avec mon impression honnête. Ce n'est pas une demande, c'est pas un article payé à la demande d'Idica. J'ai fait ça de mon plein gré pour vous donner un meilleur avis. Et Alain, on peut te lire un peu partout, entre autres dans Le Devoir.
Surtout dans Le Devoir. Allez voir ça, ledevoir.com. Surtout qu'on a commencé une chronique techno le samedi, maintenant dans le gros cahier du divertissement qui nous permet d'aller plus loin, de s'éclater et d'avoir du plaisir. Culture numérique, donc ça va dans tous les sens. Allez voir ça, ledevoir.com. Nous, on prend, c'est la fin, donc on prend la fin de semaine off, hein, Pascal. On vient d'apprendre là, dans le segment juste avant qu'on pouvait prendre négocier avec notre employeur des meilleures conditions. Je m'en vais parler à mon boss. On vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde.
Bye bye.
23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.